en ce qui concerne le film. Je regrette quand même, je comprends que c'était un film qui était très très dur à monter, à réaliser, et puis qu'on ne pouvait pas parler de toute la vie de Charlie Parker. Mais enfin, étonnement total devant l'absence de Miles Davis, mmh. qui a été quand même le grand compagnon de Charlie Parker à une époque, pareil, quand même, très importante, puisque ce sont les premiers enregistrements dits bebop. Et Miles a été vraiment aux côtés de Parker là, pour des enregistrements qui joue un rôle capital dans l'histoire de la musique négro-américaine. Et Miles, il y a juste son nom, qui est cité à un moment pour tout à fait autre chose. Et puis, pareil, le manque de liaison avec le blues, avec Kansas City. On ne voit absolument pas Charlie Parker au moment où il jouait dans le grand orchestre, par exemple, de Jay McChan. On ne le sent pas au contact du blues, de la réalité du blues de Kansas City. La ville de Kansas City n'est pratiquement pas évoquée, à part pour cette scène ratée de la jam session.
Oui, justement, c'est là qu'elle aurait dû être évoquée.
Et c'est là qu'il y aurait, à mon avis, moi j'aurais été Clint Eastwood, j'aurais fait un plus grand développement là-dessus. Bon, maintenant, j'ai apporté une somme de critiques assez copieuse au film, et je voudrais quand même dire que ce qu'on peut ressentir, ce que tout le monde peut ressentir, c'est l'amour et le sérieux dans le travail apporté par toute l'équipe du film. Et ça, personne n'est parfait, tout le monde peut se tromper, et surtout à faire quelque chose d'aussi difficile.
Alors, moi, je crois qu'on peut peut-être conclure sur Bird, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Et on va peut-être faire une pause musicale avec un morceau que peut-être tu présenteras, Philippe, tout à l'heure. Alors, Philippe Audouin, tu peux nous dire ce qu'on vient d'entendre là?
Oui, c'était Night in Tunisia, le fameux Night in Tunisia par Charlie Parker, avec le fameux break de Charlie Parker.
D'accord.
Historique.
Historique.
L'Église.
D'accord. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant un sujet qui nous concerne tous ici, c'est-à-dire à savoir comment le jazz est traité au cinéma, mais pas le jazz en général, parce que c'est un trop gros sujet. Le cinéma a beaucoup, en fait, utilisé le jazz, on en a beaucoup parlé, mais plutôt les biographies de musiciens, comment le cinéma les a abordées. Parce qu'en fait, il y a eu quand même tout un tas de films qui sont sortis, disons, même moins de 10 ans. Hein. Bon, je pense à Lady Sings the Blues, qui donc... s'inspirait, soi-disant, de l'autobiographie de Billie Holiday. Bon, évidemment, il y a eu le film de Tavernier, Around Midnight. Et puis, Cotton Club de Coppola, qui n'est pas une biographie, non, mais qui tentait de ressusciter la vie du fameux Cotton Club. Et puis, donc, le Clint Eastwood. Alors, j'aimerais avoir votre opinion. Moi, je peux vous donner la mienne en tant que non-musicienne. Hein. Le souvenir que j'ai du film de Sidney G. Fury, Lady Sings the Blues. Alors, moi, j'avais lu la biographie de Billie Holiday, qui est une chanteuse que j'adore. Et là, quand j'ai vu à l'écran cette espèce de film vert cacadois, grisâtre,
marron,
enfin laid du point de vue de l'image, vraiment, c'était laid.
Hideux. Hein.
Bon, j'ai trouvé déjà que l'image n'était pas belle, le montage nul. Diana Ross, qui n'est pas une mauvaise chanteuse.
Une très bonne chanteuse, mais là, elle a fait
l'erreur
de sa vie.
Là, je ne pouvais effectivement pas faire abstraction, et je ne suis pas une spécialiste du jazz, mais enfin, je connais quand même, j'ai quand même la voix de Billie dans la tête, j'arrivais pas à faire abstraction. Et alors, en plus, on avait l'impression que c'était toujours l'histoire mélodramatique des traînées de ruisseaux, de la déchéance sociale, du caniveau.
Mais c'est ça aussi, le jazz. Hein. Je veux dire, faut pas... Enfin, il y a une partie du jazz qui est ça. Bien entendu, il y a des gens qui se complaisent à ça. Et là, c'est là que nous, en tant que jazzmen, on fait un peu la gueule, tu vois, parce qu'il faut... Il y en a marre, tu vois, il y en a marre. Cela dit, on peut pas tourner la vie de Billie Holiday non plus dans un lit de rose, etc. Elle arrive à Carnegie Hall, youpi, etc.
Mais c'est là où justement le film d'Eastwood ne fait pas la part au sensationnalisme et la drogue est montrée très bien,
très discrètement.
Oui, moi j'ai trouvé que le film d'Eastwood, d'un point de vue éthique, alors là je dis, a des qualités, c'est-à-dire que justement, je sais pas comment ça s'est passé entre Dizzy et Bird, mais disons que l'opposition qu'il a faite, à savoir Dizzy qui lui dit moi, fais ce que tu veux, mais en gros, je pense que si on se calme, on se fait avoir par le système, et si tu veux être un martyr, c'est ton problème.
Non, mais ça, c'est,
oui, c'est vrai qu'ils avaient une vision posée.
Je pense que ça s'est apparemment passé comme ça, et j'ai trouvé que là, il y avait une position de Clint Eastwood que j'ai... Enfin, moi, j'ai trouvé que pour
Il y avait les deux facettes du jazz,
voilà,
finalement,
les deux facettes,
entre Dizzy et Parker.
Et il ne choisissait pas Eastwood. Je ne pense pas qu'il a joué l'une contre l'autre. Il nous les donnait. Il nous les donnait à voir. Mais ça, j'ai vraiment apprécié. Alors, évidemment, un film que j'avais revu récemment pour un peu justement pouvoir parler de Bird, c'était Around Midnight de Bertrand Tavernier avec Dexter Gordon, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Et alors là, moi, j'ai été terrorisée. Bon, je n'aime en général pas beaucoup ce que fait Bertrand Tavernier, qui est pourtant quelqu'un de très sympathique. Par ailleurs, dans les idées et tout ce qu'on veut. Mais là, le film, j'ai trouvé que c'était entre le brancard et la morgue. Et que c'était un film d'assistanat social.
Oui, mais il pouvait pas faire tellement autre chose avec l'état dans lequel était aussi Dexter Gordon, qui n'en pouvait plus. Il pouvait pas jouer autre chose que des ballades, qui créent aussi un climat. Le jazz, c'est pas uniquement ça, hein, c'est pas uniquement lent et morne. Mais Dexter était comme ça, et pourtant il arrive à être formidable.
Ouais, enfin, moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pas l'état de Dexter qui a fait le film.
Parce que Dexter qui est le meilleur.
Exactement.
Oui,
même en mauvaise santé, est tout à fait capable d'avoir de l'humour. La preuve, c'est qu'il arrive même à en avoir dans ce film, alors que je pense que c'était hors scénario. Et donc, je pense que on peut pas. Enfin, ça n'est pas le personnage de Dexter qui provoque le fait que le film soit morne et comme ça.
Non, mais sur le plan musical, c'est vrai que. J'étais touché complètement par Dexter Gordon.
Moi
j'ai aimé ce film pour Dexter Gordon.
Je dirais qu'à la limite, la musique dans le film de Tavernier, ça me paraît presque quelque chose de... Enfin, la réalisation, la musique me paraît un problème assez secondaire. Ouais. C'est-à-dire, bon, en effet, on sait comment joue Dexter maintenant. Enfin, pour nous, je veux dire, il n'y a pas à se... À regretter que la musique soit ce qu'elle est. Moi, je pense que c'est le scénario du film qui est à remettre en cause.
Mais il a été remis en cause, à mon avis, pendant le tournage même du film. C'est-à-dire que, il y a une hypothèse de départ que je trouve... le film a été monté, ok ? Un film se monte. Et alors, il y a eu toute une série de drames, certainement humains, entre les gens qui ont fait le scénario, Bertrand Tavernier, les acteurs, ceci, cela. Enfin, on sent vraiment que ce film est parti en eau de boudin. Je ne sais combien de fois, certainement au cours du tournage, enfin, ça paraît complètement évident. Le magnifique décor de Trôner.
On le voit pas, on
y a droit deux fois cinq secondes en carte postale. Après, on voit des trottoirs avec du béton totalement des années 80. On n'y croit pas non plus un seul moment.
Il faut dire que Trôner est un grand décorateur et que Tavernier aurait pu quand même l'utiliser au maximum.
L'acteur qui fait Francis là, est très très mauvais.
François Cluzet.
Là-dedans, il est très très mauvais.
Il est pas mauvais, il est horripilant. La grande qualité de Tavernier au cours de ce film, parce que je crois qu'il s'en est aperçu au cours du film lui-même, c'est de s'apercevoir que Dexter Gordon est un personnage hors du commun. Je veux dire un personnage, parce que pas seulement un musicien hors du commun, mais un personnage hors du commun, même amoindri, même vieillissant, un personnage absolument magnifique et qui est beau à filmer en plus, qui est beau à filmer pour les sons qu'il fait, pour l'allure qu'il a, enfin pour tout, pour ce qu'il dit, pour son tempo, dans sa diction, pour tout ça. Et je crois que Tavernier a eu une seule grande intelligence dans ce film, mais elle est de taille, et on doit lui tirer son chapeau, c'est qu'au lieu de continuer à tourner son scénario au boudin avec des choses qui n'allaient pas, parce que rien n'est adéquat dans ce film, c'est un désastre, je veux dire. Et il a eu l'intelligence de garder sa caméra braquée sur Dexter Gordon plus de 10 secondes.
Et le laisser vivre
devant la caméra. Et je crois que c'est quand même le film de Tavernier constitue par moment le plus beau documentaire qu'on puisse avoir
sur un musicien de jazz.
Exactement. Et pour même ça,
si, on est,
même si quand même si la musique qu'il réalise n'est pas exceptionnelle, justement.
Oui, la musique n'est pas géniale.
C'est en ce sens-là que
surtout quand on connaît Dexter
tel qu'il est et tel qu'il joue, il fait de la musique sans jouer de l'instrument. Dire, il représente vraiment un grand musicien de jazz.
Et voilà. Et ce qui est drôle, c'est que la qualité principale, et pour cause, on ne peut pas lui reprocher, une fois de plus, Clint Eastwood n'étant pas Dieu, il n'a pas ressuscité Parker, mais ce qu'on peut reprocher quand même au film Bird, c'est de manquer justement de cette dimension de réalisme, enfin de vérité musicale, hein, même si ce qui a été fait est honorable. Et cette dimension, elle existe complètement dans le film de Tavernier, même si la musique est beaucoup moins intéressante. Cette dimension existe, et non seulement elle existe, mais elle est magnifique. Et c'est pour ça que, de toute façon, je ne crois pas qu'on puisse dire tel film, c'est une merde, tel film, c'est un chef-d'œuvre, en parlant d'un film sur le jazz. Parce que, de toute façon, il y a autant de goûts en jazz que d'amateurs ou de musiciens de jazz, pour commencer. Et que, deuxièmement, il est évident que les gens qui font des films sur le jazz, par les temps qui courent, ça m'étonnerait que ce soit des gens qui fassent ça autrement que par amour. C'est impossible de faire ça autrement que par amour. Et de toute façon, donc, ça se retrouve à un certain moment dans le film. Alors Tavernier l'a fait quand même par amour, et il est tombé amoureux de Dexter Gordon, et on a le résultat de cette histoire d'amour, malgré tout, dans le film de Tavernier, qui est quand même, globalement, une sombre merde. Bon, globalement. Mais une sombre merde sur laquelle pousse cette magnifique fleur de la réalité de Dexter Gordon. Et ça, c'est quand même une contradiction énorme. Et puis, pareil, Bird, c'est un film fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de précision, de ceci, de cela, et où, en fait, j'ai l'impression que Clint Eastwood a été hypnotisé par les détails. Et puis, il n'a pas vu la réalité, je crois quand même, pour moi, hein, il n'a pas vu la réalité humaine. Et pourtant, il a été loin dans les détails de la vie. Non, parce que, par exemple, on ne voit pas vivre Parker. On ne le voit pas vivre. On le voit discuter avec sa femme. Exactement. Je ne veux pas dire que les rapports entre mari et femme sont des rapports marginaux dans l'existence d'un homme. Mais enfin, quand même, il n'y a pas que ça. Et on ne le voit absolument pas vivre. Donc, on ne peut pas y croire. Donc, il manque toute cette dimension qui existe dans le film de Tavernier.
Moi, j'y mettrais quand même un petit peu des nuances, c'est-à-dire que ne connaissant pas la vie de Parker, j'ai accroché au film d'Eastwood et beaucoup, hein, je me suis pas du tout ennuyée dedans, parce que moi, il me semblait quand même que le personnage vivait. Alors que dans le film de Tavernier, moi, j'avais l'impression de voir malheureusement une espèce de déchet qui était pris en charge par une assistante sociale jouée par François Cluzet. Et c'est cette conception-là qui, moi, m'a révoltée.
Ah oui, mais moi aussi.
Oui, d'accord, mais ça, c'est le scénario. Bon. Disons que si tu avais si...
D'un point de vue, je veux dire, humain, je préfère 10 000 fois.
Bien sûr.
Et j'ai accroché 10 000 fois. Moi, j'ai aimé le film d'Eastwood, de ce point de vue-là. Du point de vue de la réalité de ce qu'était Parker, ça, c'est autre chose. Moi, je ne connais pas la vie de Parker. Du point de vue d'une simple spectatrice, j'ai trouvé le film quand même beaucoup plus... bon, avec une vision moins... le musicien de jazz, déchet de la société, quoi. Parce que, en fin de compte, pourquoi, moi, je me pose cette question et je me la pose, pourquoi, dans le cinéma, en arrive-t-on toujours, bon, je sais que beaucoup de musiciens de jazz ont eu des vies perturbées, certains ont bu, certains se sont drogués, etc. Pourquoi uniquement donner toujours cette vision unilatérale, qui est un peu contrebalancée, justement, par le film de Eastwood, à mon avis, de musiciens, déchets sociaux, lits de la société, drogués, malades, cas pathologiques, bons pour la morgue. Alors, quel est votre point de vue là-dessus?
Ben, ça fait vendre aussi. On imagine mal qu'un film fait sur un musicien de jazz, même génial, mais buvant du Coca-Cola à longueur de film, excite beaucoup les imaginations.
Tu ne crois pas, Daniel, que ça joue, ça facilite, ça va dans le sens du voyeurisme complaisant? Et
sûr,
que
le
ça,
cinéma, c'est du voyeurisme aussi.
Non, je suis justement pas tout à fait d'accord avec ça. Le bon cinéma, c'est se séparer du voyeurisme complaisant.
Oui, bien sûr.
Et pas adhérer à du voyeurisme tout court.
Oui, mais non plus, il faut pas cacher. On peut pas ne parler de Parker sans parler de sa déchirure.
Bah non,
ça, je suis d'accord. Mais genre,
Dexter Gordon est pareil. Et puis,
disons qu'il a essayé de s'en sortir avec ces éléments-là et qu'il s'en sort pas trop mal.
Moi, je trouve. Alors sinon, est-ce qu'il y a des films sur le jazz qui vous ont satisfait? Cotton Club, entre autres, là, on n'en a pas parlé.
Je ne crois pas que c'est un film sur le jazz. Pour moi, ce n'est pas du tout un film sur le jazz. Mais ce qu'on pourrait faire un peu, c'est voir l'historique des biographies qui ont été faites
Alors,
sur
Philippe
le jazz.
Baudouin.
Parce que c'est intéressant de constater, évidemment, à Hollywood, puisque c'est quand même le film Bird est quand même un film, finalement, hollywoodien. C'est un produit d'Hollywood. Et c'est là où on voit que maintenant, il y a une renaissance, avec, d'une part, le Tavernier... Et grâce aussi à Bird, il va y avoir une espèce de renaissance qui fera que maintenant, on ne pourra plus faire des films comme on a fait avant à Hollywood, comme on a vu avec Lady Sings the Blues ou tous les autres films. Par exemple, alors déjà, il y a un truc, c'est d'habitude, dans ce genre de film à l'époque, quels étaient les musiciens de jazz dont faisaient des biographies au cinéma? C'était les musiciens blancs.
Fred Nicholas.
Alors, Benny Goodman.